Et sur RFI à 8h10, heure de Port-au-Prince, c'est l'heure du journal d'Haïti et des Amériques. C'est avec Pauline Glaise, bonjour.
Bonjour Edmond, bonjour à tous et bienvenue. Au Venezuela, le pouvoir envisage d'avancer la date des élections législatives. L'objectif est de les faire coïncider avec la présidentielle. Explication de notre correspondant Julien Gonzalez et réaction dans la revue de presse dans quelques instants. La fusillade qui a fait 17 morts en Floride, c'était il y a une semaine. De jeunes rescapés doivent rencontrer des élus aujourd'hui dans la capitale de l'État. La Floride qui vient d'exclure un durcissement des lois locales sur les armes à feu. Acapulco, au Mexique, vitrine du tourisme devenue l'une des villes les plus dangereuses. Victor Zamit a essayé de comprendre pourquoi. Son dossier dans moins de 10 minutes. Et puis nous irons à Québec où une délégation du Festival des Quatre Chemins de Port-au-Prince a participé à une série de rencontres artistiques. C'est encore le flou au Venezuela. La présidentielle est convoquée pour le 22 avril et les candidats doivent s'inscrire sur Internet entre samedi et lundi prochain. Mais la coalition d'opposition n'a toujours pas annoncé de décision définitive et les déclarations de l'homme fort du parti chaviste au pouvoir, Diosdado Cabello, risquent de tendre un peu plus la situation. À Caracas, les explications de Julien Gonzalez.
Nicolas Maduro réélu et l'Assemblée nationale actuellement aux mains de l'opposition récupérée par le chavisme le 22 avril. Voilà un scénario qu'escompte bien réaliser Diosdado Cabello, le vice-président du parti chaviste au pouvoir, qui a annoncé ce mardi qu'il proposera à l'Assemblée constituante d'avancer les législatives pour les faire coïncider avec la présidentielle, car, juge-t-il, le pouvoir législatif ne fait rien. Il faut dire que le tribunal suprême de justice, accusé de servir les intérêts du pouvoir, a annulé toutes les décisions du Parlement depuis son investiture début 2016. Si elle venait à se concrétiser, la proposition de Diosdado Cabello a de fortes chances d'être approuvée. Fin janvier, c'est déjà lui qui avait proposé d'avancer la présidentielle et la constituante, cette assemblée plénipotentiaire constituée exclusivement de partisans pro-Maduro, n'avait pas tardé à donner son feu vert. Cette déclaration intervient alors que l'opposition semble s'orienter vers un boycott de la présidentielle, assurant que les conditions ne sont pas réunies pour un scrutin libre, démocratique et transparent. Deux des principaux partis de l'opposition, Primero Justicia et Voluntad Popular, ont en effet déjà fait savoir qu'ils ne participeraient pas à la présidentielle. Pour autant, ce mardi soir, la coalition d'opposition n'avait toujours pas pris de décision commune définitive. Julien Gonzalez, Caracas, RFI.
Bonjour Romain Le Maresquier.
Bonjour Pauline, bonjour à tous.
Cet éventuel nouveau changement du calendrier électoral fait bien sûr réagir dans la presse.
Oui, et le titre en une d'El Nacional ne laisse pas place au doute. Le chavisme coince encore plus l'opposition en proposant d'avancer les législatives. La proposition de Diosdado Cabello, élu à l'Assemblée constituante et considéré comme le numéro 2 du régime, prend un peu plus la coalition de l'opposition en otage. Une proposition annoncée le jour même où les trois principaux partis qui forment la MUD, cette large coalition de l'opposition, aurait pris la décision de ne pas participer à l'élection présidentielle, détaille le quotidien. D'ailleurs, l'annonce de ce boycott devrait être officialisée aujourd'hui, toujours selon El Nacional.
Et comment est-ce que les experts analysent cette éventuelle convocation des élections législatives?
Eh bien, pour les experts interrogés par El Nacional, en agissant de la sorte, le parti au pouvoir veut profiter des divisions au sein de l'opposition pour perpétuer le pouvoir de Maduro, malgré l'hyperinflation, la crise alimentaire et sanitaire. Une opposition qui risque encore plus de s'écharper, estime un autre politologue dans les pages du quotidien, car certaines des petites formations de la coalition pourraient bien participer aux différents scrutins pour tenter de survivre. Cette proposition de Diosdado Cabello n'est pas encore arrivée sur le bureau de la présidente du Conseil national électoral, précise quant à lui le quotidien proche du pouvoir Ultimas Noticias.
La crise politique est scrutée de près par les autres pays du continent, en particulier par le Pérou, Lima, qui ne souhaite pas la venue de Nicolas Maduro au prochain sommet de l'OEA. Caracas a répondu à la lettre des autorités péruviennes, Romain.
Oui, Jorge Arias, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, a adressé une lettre à son homologue péruvienne dans laquelle il explique que Nicolas Maduro, malgré le message qui lui a été adressé, se rendra bien à Lima les 13 et 14 mars prochains pour assister au sommet de l'OEA. Selon Segundo Enfoque, qui a eu accès au courrier, Jorge Arias détaille les statuts d'un tel sommet et les obligations que doit remplir le pays hôte. Du côté des autorités péruviennes, le message n'a pas changé. Elles expliquent même qu'elles disposent désormais des mécanismes légaux pour empêcher l'entrée sur son territoire du président vénézuélien.
À direction les États-Unis, il y a tout juste une semaine, 17 personnes mouraient dans une fusillade dans un lycée de Floride. Depuis, de jeunes survivants ont créé un mouvement Never Again, plus jamais ça, avec pour objectif de dénoncer les liens entre le pouvoir politique et le lobby des armes. Donald Trump a émis quelques propositions. Il a notamment fait savoir qu'il soutiendrait un renforcement du contrôle des antécédents des acquéreurs d'armes. Aujourd'hui, quelques dizaine d'élèves rencontreront des élus en Floride et certains participeront à un débat télévisé diffusé par CNN. Ryan Deitch en fait partie. Pour lui, la déclaration de Donald Trump sur les antécédents ne suffit pas.
Je pense que tant qu'il n'y a pas une loi sur le papier déclarant qu'il fera ce qu'il a dit, son message ne veut pas dire grand-chose pour moi, voire même ne veut rien dire, parce qu'il peut dire tout ce qu'il veut, mais pour l'instant c'est juste du bruit. Je ne sais pas ce que le président fait et je ne le comprends pas, mais on l'a invité au débat sur CNN, on lui a dit clairement qu'on voulait juste parler, on veut juste rendre le monde meilleur. Et pouvoir s'adresser aux dirigeants du monde libre serait déjà un bon début. Le message aux dirigeants de notre pays est le suivant, vous devez faire quelque chose de concret, n'importe quoi, pour que ça change, même si c'est juste se débarrasser des armes automatiques, ce qui serait déjà une bonne chose, vous devez débattre là-dessus.
Ryan Deitch, un élève du lycée Stoneman Douglas, joint par Chloé Magister. Romain Lemareski, on vient de l'entendre, la jeunesse américaine attend des décisions. Et précisément, hier, Donald Trump a annoncé avoir demandé au ministère de la Justice de nouvelles réglementations en la matière.
Oui, c'est ce que précise ce matin le quotidien USA Today, des réglementations qui permettraient d'interdire tous les mécanismes qui transforment des armes légales en fusils automatiques, ce qu'on appelle des bump stocks aux États-Unis, des textes qui devraient être finalisés prochainement, selon le président Donald Trump. Mais comme le précise le quotidien, cette promesse avait déjà été faite au lendemain de la tuerie de Las Vegas qui avait coûté la vie à 59 personnes. C'était il y a 5 mois et depuis rien n'a été fait, rappelle le quotidien.
Romain, la jeunesse américaine attend donc plus de la part de ses élus.
Oui, c'est ce qu'explique le New York Times dans son éditorial du jour. Ce que demandent aujourd'hui ces jeunes manifestants, c'est que vous baissiez les armes. Nous sommes vos enfants, peut-on lire. L'Amérique fait face à un choix, les armes ou ses enfants, estime le quotidien. Le moment est venu de dire assez. Dans quel pays envoie-t-on des enfants avec un sac à dos qui résiste aux balles, s'interroge le journaliste qui s'avoue sceptique pour l'avenir. Et le rejet hier par les élus de l'État de Floride d'un durcissement de la loi sur les armes à feu n'invite malheureusement pas à l'optimisme, estime le New York Times.
Merci Romain Lemareski pour votre revue de presse. En bref et en économie, la Corée du Sud a signé aujourd'hui un accord de libre-échange avec 5 pays d'Amérique centrale, le Costa Rica, le Salvador, le Honduras, le Nicaragua et le Panama. Cela permet à Séoul de diversifier son accès au continent américain en cette période de friction commerciale avec l'administration Trump. 25 339, c'est le nombre de personnes tuées au Mexique en 2017, l'année la plus meurtrière pour le pays depuis 20 ans. Selon les autorités, 3/4 de ces meurtres sont liés au crime organisé. Et parmi les villes qui font face à une violence inouïe ces dernières années, Acapulco, cette ancienne vitrine du tourisme au Mexique, est devenue la ville des meurtres et du crime organisé. Un dossier de Victor Zamit.
Acapulco, sleeping in the bay.
Nous sommes en 1963, le monde entier s'amuse dans la baie d'Acapulco. Elvis Presley, Frank Sinatra, Elizabeth Taylor. La perle du Pacifique, telle qu'on surnomme la ville, est à cette époque la station préférée de toute la jet-set d'Hollywood. Mais le rêve s'arrête au début des années 2000. La cité carte postale devient l'une des villes les plus dangereuses du monde.
La violence ne s'arrête pas dans l'état de Guerrero. Ce dimanche, deux affrontements ont fait 11 morts. Un groupe de civils armés a attaqué la police communautaire à Acapulco. Quelques heures plus tard, une deuxième confrontation a eu lieu entre les polices de l'État et la police locale.
Ce genre de nouvelles, les habitants d'Acapulco y sont désormais habitués. Tout commence véritablement il y a 10 ans, en 2006, quand le gouvernement du président Calderón déclare la guerre aux cartels et décide d'envoyer l'armée dans la ville. Mais pourquoi Acapulco connaît une telle violence actuellement? Jean-Jacques Kourlianski est chercheur à l'IRIS et spécialiste de l'Amérique latine.
Alors il y a plusieurs thèses, il y a certains qui disent que c'est une ville qui est sous-administrée parce que elle est gérée par un certain nombre de familles locales qui participent au trafic de produits illicites et qui ne souhaitent pas qu'il y ait des systèmes de justice ou de police efficients. certains mettent en avant la politique du président Calderón, donc d'intervention des forces armées qui accentue les dynamiques de violence, d'autres mettent en cause la corruption, d'autres mettent en cause la situation particulière de l'arrière-pays, de Guerrero, qui est particulièrement violent. Hein, donc, il y a des luttes de cartels pour contrôler les zones de production de cannabis. D'autre part, le Mexique est un pays fédéral, donc il y a des polices locales, des polices d'État qui ne sont pas très bien coordonnées et qui sont pénétrées par les trafiquants et qui se heurtent souvent les armes à la main avec d'autres corps de police.
Depuis l'arrestation d'El Chapo, le chef du cartel de Sinaloa, une guerre sanglante oppose une dizaine de clans pour le contrôle de ce port stratégique et touristique. Et les premières victimes sont bien sûr les habitants de la ville. Médecins sans frontières a d'ailleurs ouvert une antenne à Acapulco pour leur venir en aide. Noelia Manjé est la coordinatrice de ce projet.
Les gens vivent dans l'anxiété et dans la peur. La majorité de la population d'Acapulco a déjà été victime ou témoin d'affrontements, de violences sexuelles, de menaces, de déplacements forcés, de restrictions en matière de circulation ou de confinement. Tout cela provoque du stress, des états d'anxiété, de dépression chronique, des troubles de l'alimentation et du sommeil qui affectent un gros pourcentage de la population d'Acapulco.
Pour Javier Adonoso, professeur de sciences politiques à Mexico, cette violence criminelle est aussi la conséquence de la pauvreté et du manque de perspective des habitants d'Acapulco, notamment auprès des plus jeunes qui deviennent le bras armé des cartels.
Il y a une grande partie de la société qui n'étudie pas. Il n'y a pas d'opportunité de travail. Économiquement, Acapulco ne s'est pas réinventé. Elle vit seulement du tourisme. Il n'y a pas d'autres ressources ou de domaines qui génèrent de l'argent.
Et la situation économique de la ville ne devrait pas s'améliorer puisque la violence fait fuir les touristes. En 2017, la fréquentation des hôtels a baissé de plus de 30%. La grande époque d'Acapulco semble décidément bien loin.
Victor Zami était un peu plus au nord dans l'état de Jalisco. Trois Italiens ont disparu fin janvier. Selon un proche, ils auraient été arrêtés par la police locale. Une enquête est menée. Les 33 membres de la police de Tecalitlan vont être emmenés dans la capitale de l'état pour être entendus.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Une délégation haïtienne du festival Quatre Chemins de Port-au-Prince participait la semaine dernière à la Bourse Rideau. C'est une rencontre entre artistes et programmateurs artistiques qui se tient chaque année à Québec. Des responsables de salles de spectacle des quatre coins de la région et des délégations du monde entier se rassemblent pour assister à des représentations de danse, de théâtre et de musique. L'occasion pour les programmatrices haïtiennes d'inviter des artistes à leur festival. Reportage de Pascal Guéricola.
Le monde entier m'est passé dessus.
La pièce belge Plainte contre X, où un personnage témoigne de la dureté des tournages pornographiques, a touché la programmatrice Daphné Jeudy.
Je me demande combien de tous ceux qui sont autour de moi se masturbent en me regardant.
Au point qu'elle songe sérieusement à faire venir cette pièce à Port-au-Prince, peut-être pour la présenter dans les écoles en lien avec l'association Quatre Chemins.
C'est un sujet que je trouve touchant, c'est un sujet que je pense qu'il faut commencer à aborder et aborder les problèmes à travers le théâtre. On fait ça souvent dans notre pays avec le programme théâtre dans les écoles. On travaille avec les enfants sur équité de genre, donc utiliser l'art comme vecteur de développement social, ça on le fait beaucoup dans l'association Quatre Chemins.
Présent à la Bourse Rideau avec l'actrice de Plainte contre X, le metteur en scène belge Alexandre Drouet est partant pour offrir au public haïtien cette pièce au décor minimal.
Pour nous évidemment c'est très excitant aussi de pouvoir dire on traverse la planète avec ce spectacle, un propos très international, très fier de pouvoir porter ça dans d'autres pays quoi. Le texte parle des tournages trop violents et où on est passé de l'érotisme à une espèce de forme de torture pas réglementée. Ça ne se réglera politiquement qu'au niveau international. C'est parce qu'il y aura toujours un autre pays, une autre plateforme web pour diffuser des trucs à partir d'un autre pays.
La Bourse Rideau dispose d'une vaste place du marché où les agents d'artistes rencontrent les programmateurs de spectacles. Après avoir discuté avec plusieurs théâtres francophones, Daphné Jeudy du Festival Quatre Chemins a aussi pris soin de noter les coordonnées de différentes salles de spectacles au Québec ou ailleurs. Son but, tisser des liens avec des personnes susceptibles d'inviter des artistes haïtiens dans leur pays.
Je vais les contacter tous pour voir est-ce qu'on peut aller chez eux, est-ce qu'ils peuvent venir chez nous et continuer ces échanges culturels qui pour moi, je pense qu'il est très, très important. On n'est pas là seulement pour des spectacles, on aimerait avoir des diffuseurs, des directeurs de théâtre pour venir dans le festival, pour connaître le festival et pour pouvoir diffuser la haïtienne dans d'autres espaces, dans d'autres pays également.
De plus en plus, la Bourse Rideau ouvre ses portes à des délégations de partout dans le monde. Juliane Richard, la directrice de l'organisme québécois, espère que dans l'avenir, plus d'artistes étrangers présenteront leurs spectacles au Québec. Il ne faut pas oublier en effet que cette province accueille des citoyens des quatre coins de la planète. Juliane Richard.
On parle beaucoup ces temps-ci des enjeux de diversité culturelle aussi, à la fois bien sûr pour les gens qui sont chez nous, qui puissent être présents sur nos scènes, mais peut-être aussi les attirer dans nos salles en leur présentant des choses qui viennent même de leur pays d'origine, peut être une façon aussi d'aller travailler cet aspect-là du public issu de la diversité culturelle. C'est quand même un enjeu qui me préoccupe aussi, de voir à ce que nos salles de spectacle puissent être investies par des gens qui font partie, en fait, de l'immigration, que ce soit de première, de deuxième ou de troisième génération, là.
Les Haïtiens de la diaspora de la région de Montréal auront donc peut-être bientôt accès à plus d'artistes de leur pays d'origine. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
On est en ligne avec la première pour le journal de l'Outre-mer. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Pauline.
Benoît, c'est une étude officielle qui l'affirme. L'avenir économique de la Martinique passera par le développement de l'économie bleue.
Oui, une étude menée par l'IEDOM, l'Institut des missions des départements d'outre-mer, étude sur la place de l'économie maritime aux Antilles. Et selon cette étude, le potentiel de l'économie bleue ne serait actuellement exploité qu'à un peu plus de 10%, 12% au mieux. Il y a donc encore des progrès à faire et il y a de la marge. Diane Casper est la responsable du service études à l'IEDOM. Elle est au micro de Jean-Baptiste Anatole.
L'économie bleue dans l'outre-mer, plus particulièrement à la Martinique, recouvre plusieurs activités, parmi lesquelles le transport maritime, le tourisme de croisière de plaisance, la pêche, bien évidemment, et plein d'autres activités telles que les énergies maritimes, le développement de tout un tas d'énergies issues de la mer. Mais c'est très difficile de définir en quelques mots l'économie bleue parce qu'il y a beaucoup d'activités transversales qui sont bleues et pas forcément que bleues. Si on prend l'exemple du tourisme, le tourisme de terre ne fait pas partie de l'économie bleue, mais la croisière et la plaisance vont faire partie de l'économie bleue.
Dans quel objectif ?
Dans l'objectif d'évaluer le potentiel de croissance de cette économie bleue sur la région martiniquaise.
Est-ce que cette économie bleue a justement des potentiels de croissance ?
Elle en a énormément. Elle en a énormément.
L'économie bleue, c'est l'avenir de la Martinique ?
Ce n'est pas le seul levier, mais c'est un des leviers, oui.
On reste en Martinique avec un nouvel épisode de l'interminable feuilleton pollution des sols par le pesticide chlordécone. Cet après-midi, la ministre de la Santé Agnès Buzyn sera entendue par la délégation à l'Outre-mer de l'Assemblée nationale, à Paris bien sûr. Une audition qui sera précédée par une réunion interministérielle sur le sujet, réunion qui se tiendra au ministère des Outre-mer. Que faut-il en attendre ? La réponse du préfet de la Martinique, Franck Robine. Il était hier soir au micro de Serge Billet.
Écoutez, je crois que ce qu'il faut en attendre, c'est d'abord la transparence, faire bien le point là où on en est aujourd'hui sur l'état des études scientifiques, parce que beaucoup de choses sont dites parfois fausses, et donc il convient de resituer la vérité. Et puis, c'est vraiment un combat qu'on gagnera avec l'ensemble de la population martiniquaise. Les Martiniquais et les Martiniquaises doivent être associés aux mesures à mettre en œuvre. Il est possible d'avoir une agriculture sur des sols chlordécones, mais en prenant des précautions. On ne cultive pas un certain nombre de cultures sensibles sur des sols chargés en chlordécone. Et tout ça ne peut se faire que si les autorités, bien sûr l'État, mais également l'ensemble de la population, les autres institutions, les associations, participent au débat et participent finalement à l'élaboration des mesures prises.
Bon après-midi, Pauline.
À demain, Benoît Ferrand. C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Il était réalisé par Tiffany Minta. Vous retrouverez notre journal, comme tous les jours, sur le site internet de RFI, onglet émission, puis journal d'Haïti et des Amériques. N'hésitez pas non plus à nous retrouver sur notre page Facebook. L'actualité revient dans 30 secondes sur RFI.
1918.
Après 4 ans de guerre, l'armée française a besoin de nouveaux soldats et fait appel aux forces vives de son empire colonial. Mais comment la France peut-elle encore convaincre l'Afrique de donner ses fils ? Recruter pacifiquement plus de 50 000 tirailleurs, c'est le défi lancé par Clémenceau à Blaise Diagne, le premier député africain de l'histoire.
1918, mission Blaise Diagne, un web documentaire proposé par Valérie Nivelon en partenariat avec les Archives nationales et la mission du centenaire 14-18. À découvrir sur RFI.fr.